C'est l'Éternel qui donne la sagesse. C'est de sa bouche que sortent la connaissance et l'intelligence. Et Seigneur, on veut se mettre à tes pieds, à l'écoute de ta parole, Seigneur, à la fois pour acquérir la sagesse, Seigneur, et la comprendre de façon intelligible, pour que tu nous aides à vivre comme tu veux dans ce monde et au sein de l'Église. Et Seigneur, que cette parole puisse nous transformer là où elle doit nous transformer, et que cette parole puisse nous construire là où elle doit nous construire, Seigneur, que ce soit individuellement ou collectivement. Merci encore parce que ta parole est accessible et qu'on peut la lire et qu'on peut la comprendre. Et Seigneur, que ce moment soit un moment où on peut se mettre à l'écoute de ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour si je ne vous ai pas salué. Et on reprend ce matin une série qu'on avait un peu interrompue au cours de l'été, qui est la série sur le premier livre aux Corinthiens. Et jusqu'ici, on avait vu plusieurs passages, et dans un contexte d'une église de Corinthe qui est minée par des divisions, avec différents problèmes spécifiques, et Paul écrit justement pour les reprendre là où il doit les reprendre, les encourager là où il doit les encourager, mais surtout travailler à ce qu'il voit comme faiblesse chez eux, c'est l'unité. Et jusqu'ici, on était arrivé dans la section qui part du chapitre 12 au chapitre 14, qui va parler des dons spirituels, ou des dons de l'esprit. Et nous allons entamer ce matin le chapitre 14, qui parle en particulier du don de parler en langue. Alors, je suis conscient que, en me lançant dans ce texte, je marche sur des œufs. Je sais que c'est un sujet, peut-être l'un des sujets actuels les plus sensibles entre évangéliques. Beaucoup de discussions, beaucoup de débats sur est-ce que les dons existent ? Est-ce que le parler en langue existe ? Est-ce qu'il est une preuve de quelque chose ? Est-ce qu'on devrait le pratiquer aujourd'hui ou pas ? Et au travers de toutes ces discussions, les évangéliques se sont presque scindés en deux groupes. Ceux qui croient que les dons existent et sont pratiqués, notamment le don de parler en langue. Ceux qui, pour eux, pas nécessairement. Ceux qui mettent un accent particulier là-dessus et qui trouvent que c'est quelque chose de fondamental pour la vie spirituelle, et ceux qui trouvent que pas forcément. Ceux qui pensent que c'est une marque de l'esprit que de parler en langue, et ceux qui pensent que ça ne l'est pas. Ceux qui pensent que les dons spirituels continuent aujourd'hui, ou ceux qui pensent que les dons ont cessé. Et c'était ma tentative de résumer tous les désaccords qu'on peut avoir sur ce sujet. Et clairement, ce matin, je ne suis incapable de résoudre toutes ces questions et je ne pense pas que le texte ici nous en parle spécifiquement. Mais ce que je veux faire ici, c'est ce qu'on fait tous les dimanches quand on se met à l'écoute de la parole. C'est à savoir de se mettre à l'écoute de ce que Dieu a à nous dire, nous, ici, ce matin. Ce qu'il nous apprend sur lui, sur le Christ, sur l'Esprit, afin qu'on soit capable de comprendre comment vivre dans l'Église et comment vivre dans le monde. Et je vous propose qu'on se mette à l'écoute du texte, donc 1 Corinthiens chapitre 14, des versets 1 à 25, et qu'on regarde ce texte pour voir ce qu'il a à nous dire à nous ce matin. 1 Corinthiens 14, du verset 1 au verset 25. Recherchez l'amour, aspirez aux dons spirituels, mais surtout à la prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des paroles mystérieuses. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les encourage, les réconforte. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, alors que celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus important que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église reçoive une édification. Et maintenant, frères et sœurs, en quoi vous serais-je utile si je venais chez vous en parlant en langue au lieu de vous apporter une parole de révélation, de connaissance, de prophétie ou d'enseignement ? Si les paroles inanimées qui rendent un son comme la flûte ou la harpe ne rendent pas de son distinct, comment reconnaîtra-t-on la mélodie jouée sur eux ? Si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat ? Il en va de même pour vous. Si votre langue donne une parole intelligible, comment saura-t-on ce que vous dites ? En effet, vous parlerez en l'air. Si nombreuses que puissent être les diverses langues dans le monde, aucune d'entre elles n'est dépourvue de signification. Si donc je ne connais pas le sens d'une langue, je serai un étranger pour celui qui parle, et celui qui parle sera un étranger pour moi. Vous de même, puisque vous aspirez au don spirituel, recherchez à posséder avec abondance ceux qui édifient l'Église. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie afin de pouvoir interpréter. En effet, si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence est stérile. Que faire donc ? Je prierai avec mon esprit, mais je prierai aussi avec mon intelligence. Je chanterai avec mon esprit, mais je chanterai aussi avec mon intelligence. En effet, si tu prononces une bénédiction avec ton esprit seulement, comment celui qui fait partie des simples auditeurs pourra-t-il répondre « Amen » à ta prière de reconnaissance, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis ? Certes, tu prononces une belle prière de reconnaissance, mais l'autre n'est pas édifié. Je remercie mon Dieu de ce que je parle en langue, plus que vous tous. Mais dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence. 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres, plutôt que 10 000 paroles en langue. Frères et sœurs, ne raisonnez pas comme des enfants. Au contraire, pour le mal, soyez des bébés, mais par rapport au raisonnement, soyez des adultes. Il est écrit dans la loi, « C'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres étrangères que je parlerai à ce peuple. Et même ainsi, ils ne m'écouteront pas, dit le Seigneur. » Par conséquent, les langues sont un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, quant à elle, est un signe non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Si donc alors l'Église entière est rassemblée, tous parlent en langue, et qu'il entre de simples auditeurs ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes tous fous ? En revanche, si tous prophétisent et qu'un non-croyant ou un simple auditeur entre, il est convaincu de péché par tous, il est jugé par tous, ainsi les secrets de son cœur sont dévoilés, et il tombera alors le visage contre terre pour adorer Dieu en déclarant que Dieu est réellement au milieu de vous. Ici la fin de notre lecture. Et c'est vrai qu'à la lecture de ce texte, peut-être qu'on ne se sent pas concerné parce que le parler en langue n'est pas quelque chose qu'on voit dans nos cultes ou qu'on expérimente dans nos rassemblements. Mais je veux quand même dégager ici 2 grands principes que Paul donne aux Corinthiens et qui sont valables pour nous. Tout d'abord, utilisons nos dons spirituels pour faire grandir l'Église. Utilisons nos dons spirituels pour faire grandir l'Église. Et pour ça, on a besoin de revenir un peu plus au contexte des Corinthiens et de comprendre ce qui se passait chez eux. Paul leur écrit spécifiquement sur ce problème parce qu'il y avait des dérives. Tout d'abord, ils étaient fascinés par le don des langues, plus que les autres dons, et ils souhaitaient posséder ce don parce que c'était une marque de super spiritualité ou alors de grande maturité. Et si je peux tenter de définir le parler en langue, ce serait des prières ou des louanges adressées à Dieu dans une langue inconnue et incompréhensible pour ceux qui l'entendent, tout comme pour ceux qui la prononcent. Et comme ils en faisaient usage de façon intempestive dans leur culte, on peut facilement s'imaginer le désordre qui pouvait régner. Un tel se levait et parlait en langue, un autre se levait et parlait en langue, et tous parlaient en langue, mais en fait, personne ne comprenait ce qu'ils disaient, ni eux-mêmes ne comprenaient ce qu'ils disaient en langue. Et en plus de ce désordre qui devait régner dans leur culte, la division minait cette église parce que tout le monde recherchait ce don, mais quelques-uns les possédaient. Et Paul va leur écrire pour les corriger, pour leur dire ce que lui souhaite qu'ils fassent dans l'église à propos de ses dons spirituels, notamment à propos du don de parler en langue. Et la première chose qu'il va leur dire, c'est au début du verset 1, plutôt que d'aspirer à beaucoup de choses, oui, aspirez aux dons spirituels, mais surtout à la prophétie. Aspirez aux dons spirituels, oui, mais surtout à la prophétie. Et Paul va opposer le don de parler en langue au don de prophétie. Le don de prophétie, si on peut le définir aussi, ce serait des paroles spontanées, pas vraiment réfléchies, pas vraiment préparées à l'avance, et qui sont inspirées par le Saint-Esprit et qui sont communiquées aux autres dans le but de les édifier. Et puisqu'ils aiment les dons spirituels, Paul va leur dire, ben, oui, recherchez-les, les dons spirituels, mais au lieu de chercher le don de parler en langue, préférez plutôt le don de la prophétie. Et jusqu'à ce stade, je veux juste m'interrompre pour noter quelque chose qui est utile pour nous. Je sais que les dons spirituels, ce n'est pas un sujet pour lequel on parle énormément dans nos rassemblements, mais là, ici, on a un commandement de Paul qui nous encourage à rechercher les dons spirituels. Et je pense que c'est quelque chose qui devrait nous encourager à le pratiquer, à pas seulement vivre la vie chrétienne en faisant des tâches, en étant au service, mais à rechercher les dons qu'on a, spirituels, spécifiques, à les perfectionner et à les mettre au service de l'Église. Parce que, étant chrétien, tous nous recevons un don spirituel, c'est le Saint-Esprit qui le donne. Il est utile de le rechercher pour le mettre au service de l'Église. Mais aussi, une deuxième petite remarque, c'est il y a comme une forme de hiérarchie dans ce que Paul dit. Oui, aspirer au don spirituel, mais préférer peut-être le don de la prophétie. Et c'est la deuxième chose que je note là dans ce passage, c'est que dans les versets 2 et la suite, Paul va opposer le don de parler en langue au don de prophétie. Et Paul énonce le principe qui est pour nous le premier principe qu'on peut retenir, c'est le critère clé de l'édification. À quoi sert le don ? À quoi sert ce que je pratique ? Et au verset 2, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des paroles mystérieuses. Par contre, au verset 3, la prophétie, celui qui prophétise au contraire, parle aux hommes, les édifie, les encourage et les réconforte. Et on voit bien la différence. Le parler en langue édifiait celui qui parlait en langue, tandis que la prophétie édifiait ceux qui écoutaient, et donc un plus grand nombre, et donc toute l'assemblée. Et Paul met bien la différence fondamentale qui est entre ces deux dons, c'est-à-dire de parler pour s'édifier soi-même, ou de parler pour édifier les autres. Et au verset 4, il le précise. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, alors que celui qui prophétise édifie l'Église. Et c'est vrai que dans l'exercice de nos dons, c'est peut-être un sous-entendu de se dire le don sert à édifier l'Église, mais là, tel qu'on le lit, ça devrait être quelque chose de plus intentionnel. Et pour ça, c'est important de voir ce que ce mot édification veut nous dire. C'est vrai que dans édification, on peut voir édifier, bâtiment, édifice, bâtir, et c'est vraiment la racine du mot. Et on peut s'imaginer une sorte de construction qui a des fondations, qui a des murs, et qui s'élève parce que les uns et les autres contribuent en posant une pierre l'une après l'autre, et en fait, l'édifice peut monter et se construire et rester stable. Et dans la Bible, toutes les notions d'édification sont presque toujours liées à un sens communautaire. Ce n'est pas quelque chose qu'on est censé faire uniquement pour soi, mais quelque chose qu'on est censé faire pour l'ensemble. Et quelque chose qu'on est censé faire ensemble aussi. Et derrière cette notion d'édification, on comprend la notion aussi de corps, parce que si tous forment un édifice, tous forment une maison spirituelle, comme c'est dit dans Éphésiens 2, alors on voit l'image du corps de Christ, on est fondé sur lui, mais on constitue le corps que lui a formé. Et en poursuivant, l'édification pour tout le monde, on est nous aussi en train de poursuivre la tâche du Christ, c'est-à-dire de continuer à bâtir l'Église, continuer à la perfectionner, continuer à la faire avancer pour la mener fidèle jusqu'au bout. Et je reviens juste à l'image de la construction et du bâtiment. C'est vrai que pour ceux qui travaillent dans ce domaine-là, une des choses qui est importante dans une édification ou dans une construction, c'est d'arriver au stade où le bâtiment est ce qu'on appelle, pour ceux qui sont les spécialistes, hors d'eau ou hors d'air, c'est-à-dire protégé de l'air et protégé du vent et de l'eau. Ce stade, le bâtiment, est considéré comme stable et alors peut vivre. Si la construction s'arrête avant, il est presque sûr que la construction se détruit. Alors que si elle continue, Si elle atteint ce stade de hors d'eau et hors d'air, on est presque sûr que le bâtiment va tenir. Mais comme toute construction, le but, c'est d'arriver à un édifice complètement fait et pas de s'arrêter en chemin. Et alors, on peut voir le sens de s'édifier les uns des autres par l'exercice de nos dons, c'est-à-dire mettre les uns et les autres en pratique ce qu'on a reçu pour que ce bâtiment permette de se construire. Et en fait, l'image de l'Église qu'on peut avoir n'est pas juste l'image de cette salle à l'intérieur de ce bâtiment, mais de nous, vous et moi, qui formons ce corps. Et s'édifier, c'est faire grandir les uns les autres dans la foi, afin qu'on puisse progresser, puisse continuer à avancer, et qu'on arrive jusqu'au bout. Et dans ce sens, Paul leur dit, préférez la prophétie, c'est-à-dire préférez des choses qui permettent aux autres de se construire, plutôt qu'un don qui vous permet à vous-même de vous construire. Et si on élargit un peu, tout ce qu'on fait dans l'Église devrait servir à édifier. Pas seulement l'exercice de nos dons, mais nos paroles, nos gestes, nos attitudes, que ce soit notre présence, notre absence. Tout ce qu'on peut mettre en œuvre devrait servir à édifier les autres. Et à l'inverse, tout ce qu'on ferait ne devrait pas servir à nous édifier tout seuls, ou alors ne devrait pas servir à détruire l'édifice que Dieu est en train de construire. Et il est important de vraiment saisir que si nos dons sont au service de l'édification, mais toute notre vie chrétienne devrait servir à l'édification. Et l'édification, c'est ceux qui sont assis à côté de vous, les frères et sœurs, toute l'Église qui commence à constituer un édifice. Sur ce principe, il est vrai, on est tous amenés à grandir et à progresser, mais on a tous besoin des uns et des autres pour progresser et pour grandir. Et rechercher nos dons, les mettre en œuvre, devrait permettre de faire grandir les uns et les autres. Et que ce soit, comme Patrick vient de le dire, alors je ne crois pas que le ménage soit un don, mais le service est un don, que ce soit par la musique, que ce soit par la technique, que ce soit par l'enseignement, que ce soit par l'accueil, que toutes ces choses-là aient pour but de nous faire progresser dans notre compréhension spirituelle, mais aussi dans notre vie spirituelle pour savoir comment vivre dans l'Église, mais aussi comment vivre dans le monde. Au-delà de nos dons, tous nos faits et gestes, tout ce qu'on imagine, tout ce qu'on peut concevoir devrait permettre de contribuer à cette édification de l'Assemblée et nous faire grandir ensemble. En gros, rendre l'Église apte à accomplir sa mission. Et le deuxième grand principe que je veux évoquer ici et qui ressort de l'étude de ce texte, c'est utilisons nos dons de manière claire et compréhensible. Utilisons nos dons de manière claire et compréhensible. Si tous nos dons doivent servir à faire grandir l'Église, c'est-à-dire vous et moi dans la foi, dans l'expression de ces dons, il est clair que il y a une mauvaise manière d'utiliser ces dons ou une mauvaise manière de les mettre en pratique. Et là encore, les Corinthiens, on le voit, pratiquaient le parler en langue dans l'assemblée, mais ne comprenaient pas ce qu'ils faisaient. Et puisqu'ils n'étaient pas capables de comprendre le message, ils n'étaient pas édifiés. Et c'est ce principe clé que je veux qu'on retienne aussi en second, c'est l'édification de l'Église. C'est vrai, c'est une chose, mais l'intelligibilité, telle que c'est mis dans ce passage. Et au verset 7, on peut le voir. S'il venait auprès d'eux en parlant en langue, et Paul se met en situation ici pour expliquer un peu pourquoi il les pousse à avoir des dons qui soient intelligibles. S'il venait lui-même auprès d'eux en parlant en langue, au lieu de leur apporter une parole de révélation, de connaissance, de prophétie ou d'enseignement, il serait inutile pour eux, tout simplement. C'est-à-dire, si lui-même venait faisait juste que parler en langue, ben en fait, il ne leur servira à rien. Il est plus utile pour Paul de venir et de leur dire quelque chose de compréhensible, quelque chose qu'ils peuvent comprendre et qu'ils peuvent entendre, plutôt que de leur dire quelque chose qu'ils ne comprendraient pas. Et il l'illustre avec des instruments, que ce soit la flûte, la harpe, ou alors la trompette, qui, en fait, si on joue un instrument et qu'on n'est pas capable de distinguer le son, bah, il est inutile. On pourrait jouer un piano et se dire on entend une harpe, on pourrait jouer une flûte et se dire on entend une guitare, aucune différence, alors aucune utilité. Et la conséquence, c'est au verset 9 que Paul le dit. Il en va de même pour vous. Si votre langue ne donne pas une parole intelligible, comment saura-t-on ce que vous dites ? En effet, vous parlerez en l'air. Et ça, c'est la conséquence. Si les paroles ne sont pas intelligibles, si elles ne sont pas compréhensibles, ben, c'est comme parler dans le vent, parler dans le vide. Ça n'a aucun intérêt. Si on ne peut pas comprendre, alors ça ne sert à rien de l'entendre. Inutile. Mais là aussi, en élargissant un peu, ça doit nous amener à réfléchir un peu plus à ce qu'on fait comme usage de la parole entre nous, dans l'Église, et ce qu'on fait de notre langue. Et particulièrement pour ceux qui sont en position d'enseignement ou d'encouragement, un peu comme moi ici ce matin, ceux qui enseignent auprès des enfants ou alors dans d'autres contextes, devons avoir une attitude, une attention particulière afin qu'on partage de manière compréhensible la parole de Dieu, que ce soit accessible à tout le monde. Parce que le risque, si on ne le fait pas, c'est d'aboutir à un peu ce que les Corinthiens vivaient. Tout le monde parle en langue, eux ne comprennent pas ce qu'ils disent, ceux qui les écoutent ne comprennent pas, mais en fait ça ne sert à rien. Il n'y a que celui qui parle qui se sent intéressant ou important, mais les autres n'en retirent rien. Si ce qu'on enseigne n'est pas intelligible, n'est pas compréhensible, n'est pas accessible, il n'y a aucun intérêt de le faire. C'est vrai qu'on doit faire attention au fond de ce qu'on dit, que ce soit biblique, mais aussi à la forme. Et souvent, entre chrétiens, il y a cette expression du patois de Canaan, c'est-à-dire des mots techniques, des mots clairs que tous les chrétiens sont censés comprendre, mais en fait, que peu de monde comprenne. Et je m'étais retrouvé dans une église où celui qui présidait avait commencé à dire « on va se lever ensemble, on va psalmodier ». Je n'avais jamais entendu ce mot. Et jusqu'ici, je ne suis pas sûr du sens. Et toujours est-il que je suis resté bloqué sur ce mot psalmodier sans plus rien entendre du reste de ce qui avait été dit. Et c'est quelquefois le risque. C'est qu'on prononce des mots ou qu'on prononce des choses qui excluent la plupart des gens qui écoutent et qui les rendent tout simplement inadaptés pour eux. Et c'est vrai qu'on doit faire une attention particulière aux plus jeunes entre nous. Et c'est vrai qu'il y a quelques ados dans la salle, les plus petits sont dans des groupes respectifs, Dieu merci, mais on doit faire attention à ce que la parole soit aussi accessible à ces gens. Et c'est dans des contextes d'enseignement comme dans des contextes de discussion. Que ce qu'on dise serve à les édifier parce qu'ils sont capables de le comprendre. Et cela est d'autant plus important que la parole est adressée à notre intelligence. Et si vous regardez avec moi le verset 13, Paul dit « C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie afin de pouvoir interpréter ». Il est important que si le don de langue s'exprime, qu'il y ait quelqu'un qui soit capable d'interpréter afin que tous comprennent. L'argument de Paul est que si les dons des langues s'exercent au milieu de l'assemblée, il faut quelqu'un qui puisse expliquer aux autres ou qui puisse expliquer à celui qui le partage à quoi ça sert, qu'est-ce que ça signifie ou qu'est-ce qu'on en fait. Et au verset 14, on voit que si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence est stérile. Et ça, c'est la suite de ce qu'il y a comme propriété de ce don de parler en langue. C'est quelque chose qu'il est exprimé en esprit, mais qui ne touche pas l'intelligence. Et c'est important qu'on saisisse que l'intelligence est importante, ou le cerveau, ou la compréhension, ou la raison est importante dans notre foi, parce que tout ce qui est exprimé par des mots ou est écrit. Et c'est de cette façon que l'homme est capable de comprendre et d'appliquer ce qu'il a entendu. Paul, dans tout ce passage, n'est pas en train de dire que le parler en langue est une mauvaise chose, et au verset 18, on le voit, mais il est plutôt en train de dire, si on le pratique, il faut qu'il puisse être compréhensible. On n'est pas juste sur un niveau spirituel ou émotionnel, on est sur un niveau concret, raisonnable, quelque chose qui peut s'entendre et qui peut s'expliquer et qui peut s'appliquer. En fait, Paul va dire deux choses. Au verset 15, il va dire, je prie et je chante, mais je vais prier et chanter en langue, oui, puisque je peux le faire et j'ai ce don. Mais je vais aussi prier et parler de façon intelligible pour que tous ceux qui m'écoutent soient capables de comprendre. Et de cette façon intelligible ou avec son intelligence, il va parler avec sa raison, vers la raison de ceux qui l'écoutent. Et cela a pleinement son sens parce que notre foi n'est pas uniquement une foi spirituelle, n'est pas uniquement une foi émotionnelle, c'est une foi raisonnable. Et Romains 10, 17 nous aide dans ce sens à le comprendre. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. On a besoin d'entendre, on a besoin de comprendre pour pouvoir derrière l'appliquer. C'est vrai que croire ou la foi n'est pas uniquement liée à la raison, mais c'est par cela qu'on y entre. Et c'est par cela qu'on est capable de se dire, ça fait sens, c'est logique. Je dois croire, je dois continuer. Ou alors je comprends où j'étais en erreur, je dois persévérer. Et Paul l'illustre juste avec ce qu'on a vécu nous ensemble, la prière commune. Si on n'est pas capable d'entendre ce qu'un frère ou une sœur dit dans sa prière, on n'est pas capable de dire « Amen », parce qu'on n'a pas entendu. On n'est pas capable de dire « Je crois » ou « C'est vrai » ou « Qu'il en soit ainsi, que ce soit exaucé ». Pourtant, si on est capable d'entendre et de comprendre, alors on est capable de dire « Oui, c'est vrai ». Cette prière m'encourage. Amen. Qu'il en soit ainsi. Mais le fait de pouvoir comprendre est aussi le moyen de pouvoir atteindre les non-chrétiens. Par ce même biais, nous avons entendu, nous avons compris et nous avons cru, mais c'est la même chose pour les non-chrétiens. Ils sont capables d'entendre, de comprendre et de croire, une foi raisonnable. Et regardez avec moi le verset 22 qui est un peu compliqué, mais qui exprime ce que Paul veut dire à propos des non-chrétiens sur ce sujet. Si donc alors que l'Église entière est rassemblée, tous parlent en langue, et qu'il entre de simples auditeurs ou de non-croyants, pardon, je relis au verset 22 et 23, par conséquent, les langues sont un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, quant à elle, est un signe non pour les non-croyants, mais pour les croyants. C'est un peu compliqué comme tournure de phrase, mais il est juste en train d'utiliser le mot « signe » pour parler de marqueur ou d'appartenance. Les langues, ou l'expression des langues, ne sont pas un signe pour les croyants. C'est pour les non-croyants. Mais alors la prophétie, et ce qu'on est capable d'entendre ou de comprendre, c'est un signe du croyant, parce que c'est quelque chose d'intelligible, qu'on peut entendre et qu'on peut comprendre. Et alors on est identifié à ces langues qu'on comprend et à ces signes qu'on est capable d'intégrer avec notre intellect. Et en fait, il se base sur la citation d'Ésaïe 28 qui est juste avant, au verset 21. « C'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres étrangères que je parlerai à ce peuple. Et même ainsi, ils ne m'écouteront pas. » Et là, Paul fait référence à Ésaïe et sa prophétie au peuple d'Israël où Dieu a repris à maintes reprises le peuple de Dieu en essayant de lui dire de changer de conduite, de changer d'attitude, de revenir à lui. Mais le peuple a tout le temps refusé. Et en fait, ce qu'il promet, c'est ce ne sont plus des paroles de prophètes ou des paroles que vous pourrez comprendre qui viendront vous avertir, mais c'est des étrangers, les Assyriens. Ils viendront, vous ne comprendrez pas, mais ce sera un jugement contre vous. Et en fait, on comprend que la parole qu'on est capable d'entendre est un signe de grâce, tandis que la parole qu'on n'est pas capable de comprendre est un signe de jugement. On est exposé alors au jugement de Dieu et on est incapable d'y répondre parce que ce n'est pas compréhensible. Et Paul va pousser plus loin au verset 23 en disant que si un non-chrétien rentre dans une assemblée et que les gens sont en train de parler en langue, il va nous considérer comme des fous. Qu'est-ce qui se passe ici? Je ne comprends rien. Il y a un type qui s'est levé, qui a balbutié des choses, rien compris. Il traiterait les Corinthiens de fous. Et en fait, Il n'y a pas besoin de beaucoup plus pour nous chrétiens pour qu'on soit traité de fou. Déjà, quand le monde nous regarde et se dit le dimanche matin, on se met à l'écoute d'un Dieu qu'on ne voit pas, d'une parole vieille depuis de 2000 ans, oui, on est traité de fou déjà. Et si vous ne croyez pas, vous pouvez regarder le reportage de France 2 qui parlait des chrétiens évangéliques. Vous en serez fixé sur ce qu'on pense de nous. Mais ce que Paul est en train de dire, c'est on peut utiliser la langue de façon compréhensible et le message de la parole pour toucher les non-chrétiens. Si en prophétisant, vous donnez des paroles, et c'est ce qu'il dit au verset 24 et 25, des paroles qui sont capables de comprendre, d'entendre, alors ils seront capables de dire « c'est vrai ». Ce qui est dit ici est un signe réel et compréhensible. Ce qu'on m'explique là est rationnel. Alors je penche vers, je crois en Dieu. Je me tourne vers lui et je me repens de mes péchés. Et c'est important qu'on ait à l'esprit que tout ce qu'on doit faire doit être compréhensible parce que c'est comme ça qu'est constituée une église, à la fois de chrétiens, mais de non-chrétiens, en tout cas dans l'assemblée. Et là, je pense particulièrement à nos enfants ou alors des gens qui viennent ici depuis des années, qui n'ont jamais eux-mêmes pris le temps d'accepter le Seigneur. Toutes ces personnes doivent être capables de pouvoir entendre un message compréhensible, un évangile clair, pour qu'ils puissent dire « oui, je peux croire, je peux accepter ». Mais s'ils ne l'entendent pas, qu'ils entendent que des choses incompréhensibles à leur sens, on n'est pas en train de les aider à arriver au Seigneur. C'est clair que le culte n'a pas pour but d'évangéliser ou d'être pour les non-chrétiens. Et c'est ce qu'on étudie dans les groupes de maison depuis des semaines, que le culte est pour les chrétiens, est adressé à Dieu, sa parole est au centre, et c'est pour nous édifier. Mais ce culte peut être un outil pour parler aux non-chrétiens, qui sont parmi nous ou qui pourraient rentrer dans l'assemblée. Nous avons un besoin de pouvoir être clair et compréhensible dans tout ce qu'on exprime à propos de la parole, dans tout ce qu'on exprime à propos du message de l'évangile, parce que c'est source de conversion pour ceux qui nous écoutent. Et alors pour nous aussi, le travail est important de comprendre le message de l'évangile, de pouvoir l'articuler pour pouvoir le partager. Et c'est vrai, l'expression de nos dents ne devrait pas servir à voiler ou à masquer le sens des Écritures, mais plutôt à l'ouvrir, plutôt à permettre aux autres d'y avoir accès et de pouvoir se dire « le Dieu qu'ils adorent est le vrai Dieu, et moi aussi je veux l'adorer ». Et je veux juste terminer ainsi. Je suis conscient que je n'ai pas répondu peut-être à toutes vos interrogations, mais pour moi, ces deux principes sortent de ce texte assez clairement. Est-ce que ce que je fais sert à faire grandir les autres? Est-ce que ce que je fais est compréhensible envers ceux qui m'écoutent? Si ce n'est pas le cas, nous devrions changer d'attitude. Nous devrions changer dans ce qu'on dit, dans notre façon de faire, pour permettre aux autres d'entendre et de comprendre. Et que ce soit dans l'expression de nos dons, tout comme dans toute notre attitude de chrétien, ce qu'on fait doit permettre de faire grandir les autres, et ce qu'on fait doit être accessible et compréhensible aux autres. Au bout, on n'est pas censé regarder les charismatiques ou les pentecôtistes en se disant « ils font n'importe quoi, s'ils parlent en langue au milieu de leur culte », même s'il est clair que Paul dit « sans interprétation, on ne devrait pas parler en langue. » Mais je veux juste revenir au début du passage, au verset 1. Rechercher l'amour. C'est en fait ce qui structure toute cette section du chapitre 12 au chapitre 14. Du chapitre 12, on parlait des dons, de leur expression. Au chapitre 14, on en parle encore du parler en langue et de l'attitude dans le culte. Et au milieu se trouve un peu bizarrement, le chapitre 13 qui parle de l'amour. Tout ça pour dire que pour Paul, c'était clair que ce sujet était aussi compliqué, comme il est pour nous évangéliques aujourd'hui, et que la seule manière d'aborder ce sujet de manière cohérente et normale pour un chrétien, c'est à travers le filtre de l'amour. Et c'est ce qu'il dit au chapitre, au premier verset, « Recherchez l'amour », en faisant lien avec 1 Corinthiens 13. Si dans nos motivations, dans nos discussions, dans nos compréhensions, l'amour n'est pas la motivation, on est dans l'erreur et on est en train de se tromper. Quelle que soit notre compréhension biblique, théologique de ces questions-là, l'amour devrait être la source et la seule motivation. Voici ce qu'il disait dans 1 Corinthiens 13, les versets 1 à 3. « Si je parle les langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne, une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et de toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. L'amour est la seule motivation qui devrait nous entretenir en tant que frères et sœurs, à la fois pour l'édification et dans ce qu'on dit de façon compréhensible. Et je suis reconnaissant qu'on ait pu lire 1 Jean 3,16 qui ramène à l'image de Christ qui lui-même nous a aimés et s'est rendu accessible à nous afin que nous puissions le comprendre. Et à son image, nous-mêmes recherchons, aspirons, travaillons à l'amour mais à l'exercice de nos dons dans le cadre de cet amour pour l'édification de chacun. Prions. Notre Père, notre Dieu, merci pour ta parole qui, il est vrai, à certains endroits, ont des passages qui sont plus compliqués, plus difficiles à saisir. Mais Seigneur, merci parce que tu nous donnes ton esprit et que par ton esprit, tu nous donnes de pouvoir comprendre ce que tu veux de nous et que tu veux que nous fassions dans notre vie chrétienne. Et Seigneur, merci parce que tu nous donnes de comprendre que l'édification est la base de l'exercice de nos dons, Seigneur, et du service dans l'Église et que tout ce qu'on fait devrait servir à édifier nos frères et sœurs et que la modification devrait être, Seigneur, l'amour. Aide-nous à regarder nos frères et sœurs, à nous regarder les uns les autres, Seigneur, avec un regard de vrai amour, Seigneur, à nous considérer les uns les autres comme une vraie famille et avec un souci de l'intérêt de l'autre, et pas seulement notre construction à nous-mêmes et notre intérêt personnel. Seigneur, aide-nous à rechercher l'unité, à rechercher la fraternité, la communion, dans tout ce que nous pouvons dire, dans tout ce que nous pouvons faire. Au nom de Jésus-Christ.